L'engrenage fatal. L'attentat de la rue Sainte-Catherine à Paris. En juin 1392, Paris est le théâtre d'un acte de violence politique. Pierre de Craon, seigneur du Maine, tend une embuscade à Olivier V de Clisson, connétable de France, qu'il accuse d'avoir provoqué sa disgrâce auprès du roi Charles VI. Craon le fait violemment attaquer dans la rue Sainte-Catherine, alors qu'il rentrait chez lui. Clisson, laissé pour mort, survit miraculeusement, mais se retire temporairement de la cour. Craon s'enfuit et trouve refuge auprès du duc de Bretagne Jean IV, qui refuse de le livrer. Il finit par s'exiler en Angleterre. Furieux, Charles VI décide de mener une expédition punitive contre la Bretagne. Mais en chemin, dans la forêt du Mans, le roi est frappé par une violente crise de démence. Il attaque ses propres soldats, persuadé d'être trahi, et manque même de tuer son frère qui l'accompagnait. Cet épisode marque le début de sa folie, qui entra durablement son règne et bouleversera l'équilibre du royaume. Le basculement du pouvoir. Profitant de la crise de folie, les oncles du roi, Philippe le Hardi, Jean Ier duc de Berry, et Louis Ier duc d'Anjou, du côté paternel, ainsi que Louis II de Bourbon, oncle favori du roi, du côté maternel, reprennent le contrôle du gouvernement. Ils évincent les Marmousets, conseillers loyaux du souverain, parmi lesquels se trouvait notamment Clisson. Un cinquième de la Bretagne sous l'autorité de Clisson. Affaibli et absent, Olivier V de Clisson devient une cible politique. Accusé d'enrichissement illégal, le Parlement ordonne l'examen de son testament, coutume courante au Moyen Âge. Sa lecture révèle une fortune considérable, qui attise les soupçons de ses adversaires. En tant que connétable de France, Clisson a perçu deux appointements colossaux, jusqu'à 24 fois le salaire du chancelier de Bretagne en temps de guerre. Mais sa richesse ne repose pas uniquement sur ses fonctions, elle est le fruit d'une gestion rigoureuse de ses domaines, de revenus seigneuriaux classiques, taxes, péages, exploitations forestières, et d'une stratégie économique audacieuse. Clisson affrète des navires de commerce, prête à intérêt à grande échelle, y compris au pape Clément VII et à la famille royale, et profite de sa position pour spéculer sur les dévaluations monétaires. Il possède plus de 60 domaines répartis comme suit. 17 en Poitou, 8 en Normandie, 3 en Anjou, le reste en Bretagne. Ces terres bretonnes comptent environ 20% de la population de la Bretagne à la fin du XIVe siècle, signe de son poids politique et territorial. Selon l'historien Yvonique Jiquel, ses revenus annuels vers 1407 équivaudraient à près de 200 millions d'euros en valeur actuelle, 2025, et sa fortune globale à plusieurs tonnes d'or et d'argent. Bien que fondée sur des pratiques légales et innovantes, cette richesse devient un argument politique pour les Vinci. Jaloux de son ascension et inquiet de son influence, les princes du sang l'accusent d'enrichissement illégal. La condamnation et l'exil. Le 10 décembre 1392, le Parlement de Paris condamne Olivier V de Clisson pour enrichissement illicite. Banni du royaume et sommé de restituer son épée de connétable, il refuse de se soumettre à ce qu'il considère comme un complot politique. Clisson se retire alors dans sa forteresse de Josselin, en Bretagne, où il sait pouvoir compter sur ses appuis. Ce château, qu'il a fait reconstruire à partir de 1370, est l'un des plus impressionnants de son temps. Ceint de remparts de 25 mètres de haut, jalonné de 9 tours, dominé par une tour maîtresse de 90 mètres de circonférence. Ses dimensions traduisent une volonté claire, affirmer sa puissance et défier symboliquement le pouvoir ducal, dont le siège est alors à Vannes. Jean IV, profitant de la disgrâce de son rival, lance une offensive en 1393 et met le siège devant Josselin. Mais la forteresse résiste. Le duc, incapable de faire plier Clisson, est contraint de lever le siège.